Vous écoutez On lit pour vous. Le gingembre est-il vraiment aphrodisiaque? Un texte de Destination Santé et Futura Science, paru le 24 février 2026 dans Futura Science. Le gingembre aphrodisiaque est-il vraiment efficace? Découvrez ses propriétés stimulantes, ses modes d'utilisation et ce que dit la science sur cette racine aux vertus légendaires. Depuis des millénaires, l'humanité est en quête de substances capables de raviver la flamme du désir. Parmi elles, le gingembre aphrodisiaque occupe une place de choix dans les traditions médicinales de l'Inde, de la Chine et du monde arabe. Cette racine noueuse, à la saveur brûlante et piquante, est bien plus qu'un simple condiment. Elle est considérée comme un tonique sexuel puissant, capable de réchauffer le corps et d'éveiller les sens. Mais que cache réellement cette réputation? Entre croyances populaires, usages traditionnels et données scientifiques, plongeons dans l'univers fascinant de cette épice aux mille vertus et découvrons si elle mérite vraiment son statut d'aphrodisiaque naturel. Le terme gingembre est dérivé de sanskrit Shringavara, qui signifie « en forme du bois du cerf ». Le gingembre est une plante vivace dont le rhizome ou racine est consommé depuis plus de 5000 ans en Inde et en Chine. Il y était utilisé comme plante alimentaire et aussi pour ses vertus médicinales. Cette ancienneté d'utilisation n'est pas anodine. En médecine ayurvédique, le gingembre aphrodisiaque est classé parmi les vajikarana, les substances qui renforcent la vitalité sexuelle. On lui prête la capacité de stimuler à la fois le corps et l'esprit, d'augmenter la chaleur interne et de favoriser la circulation des fluides vitaux. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est considéré comme une plante yang, réchauffante, qui tonifie les reins, organes associés à la vitalité, à la longévité et à la fonction sexuelle. Ces traditions millénaires ont traversé les siècles et les continents, et c'est ainsi que le gingembre s'est forgé une réputation d'aphrodisiaque dans le monde entier. Une réputation si solide qu'elle résiste encore aujourd'hui à l'épreuve du temps et de la science. En effet, cette racine présente de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Les bienfaits du gingembre sont nombreux. Notamment employée pour lutter contre les nausées, cette épice, au goût piquant, est aussi largement utilisée comme aphrodisiaque pour stimuler l'appétit sexuel des hommes comme des femmes. Pour comprendre pourquoi le gingembre aphrodisiaque est réputé agir sur les deux sexes, il faut s'intéresser à ses mécanismes d'action potentiels. D'une part, son effet vasodilatateur, la capacité à dilater les vaisseaux sanguins, pourrait favoriser l'afflux de sang vers les organes génitaux, améliorant ainsi l'excitation et la réponse sexuelle chez l'homme comme chez la femme. D'autre part, ses propriétés stimulantes et énergisantes agiraient sur le système nerveux central, augmentant la vigilance, l'éveil sensoriel et, par voie de conséquence, le désir. Enfin, son action réchauffante liée à des composés comme le gingérol créerait une sensation de chaleur corporelle propice à la détente et au lâcher-prise. Autant d'effets qui, combinés, pourrait expliquer pourquoi le gingembre est considéré comme un allié de la libido, quel que soit le genre. Le gingembre et ses vertus aphrodisiaques. Composé d'huiles essentielles et de dérivés cisquiterpéniques, le gingembre contient aussi du gingérol. c'est justement cette substance qui lui confère ses vertus aphrodisiaques en exerçant une action stimulante et revitalisante sur l'organisme. Ses vertus seraient plus précisément vasodilatatrices et faciliteraient l'afflux de sang nécessaire à l'érection. Le gingérol, ce composé phare du gingembre aphrodisiaque, est le même qui lui donne son goût piquant caractéristique. En stimulant les récepteurs thermiques de la bouche et de l'estomac, il provoque une légère sudation et une sensation de chaleur qui peut s'étendre à tout le corps. Cette activation métabolique s'accompagne d'une légère accélération du rythme cardiaque et d'une meilleure circulation sanguine périphérique. Chez l'homme, cet afflux sanguin peut effectivement faciliter l'obtention et le maintien de l'érection. Chez la femme, il peut se traduire par une meilleure sensibilité des zones érogènes et une lubrification naturelle accrue. Bien sûr, ces effets sont subtils et variables selon les individus, mais ils participent à cette réputation de stimulant sexuel naturel que rien ne vient démentir. Ajoutez du ginseng et de la salsa pareille. Par ailleurs, cette épice étant sucrée et piquante, elle ferait monter la température du corps, favorisant ainsi le laisser-aller. Ses effets pourraient être renforcés si le gingembre est associé au ginseng ou à la salsa pareille. L'association du gingembre aphrodisiaque avec d'autres plantes réputées pour leurs vertus toniques est une pratique courante dans les pharmacopées traditionnelles. Le ginseng, notamment le ginseng rouge coréen, est lui aussi un stimulant général, un adaptogène qui aide l'organisme à résister au stress et à la fatigue. Ensemble, le gingembre et le ginseng formeraient un duo synergique, agissant à la fois sur la circulation et sur l'énergie vitale. La salsa pareille, quant à elle, est une plante sud-américaine traditionnellement utilisée comme tonique et purifiant. On lui prête des vertus hormonales, notamment une capacité à stimuler la production de testostérone. Bien que ces allégations soient peu étayées scientifiquement, la combinaison de ces trois plantes dans certaines préparations toniques sexuelles témoigne de la persistance de ces croyances à travers les cultures. Pour ceux qui souhaitent expérimenter le gingembre aphrodisiaque en synergie, une infusion mêlant gingembre frais râpé, une pincée de ginseng en poudre et une touche de miel peut constituer un breuvage aussi agréable que stimulant. Toutefois, aucune preuve scientifique n'est encore venue étayer ces croyances. Mais la consommation de gingembre dans le but de stimuler les envies charnelles ne présentant aucun inconvénient, il serait dommage de s'en priver. Il faut le reconnaître honnêtement. Si la tradition et l'usage populaire attribuent au gingembre aphrodisiaque des vertus stimulantes, les études scientifiques solides sur le sujet sont rares. Quelques recherches sur l'animal ont montré que le gingembre pouvait augmenter le nombre de spermatozoïdes et améliorer la mobilité de ces derniers, mais les études chez l'humain manquent cruellement. Les effets vasodilatateurs sont bien documentés, mais leur traduction concrète en termes de performance ou de désir sexuel reste difficile à quantifier. En réalité, l'effet du gingembre sur la libido pourrait être en partie indirect, en améliorant la digestion, en réduisant les nausées, en stimulant l'énergie générale et en luttant contre la fatigue, il crée des conditions plus favorables à l'épanouissement du désir. À cela s'ajoute probablement un effet psychologique. Le simple fait de consommer une plante réputée aphrodisiaque peut, par autosuggestion, éveiller l'esprit et préparer à la rencontre amoureuse. Le gingembre aphrodisiaque agit alors comme un placebo puissant, ce qui n'est pas nécessairement un problème tant que l'expérience est positive. À noter cependant que le gingembre, consommé à forte dose, peut entrer en interaction avec certains médicaments. Comme toute substance active, le gingembre aphrodisiaque appelle quelques précautions. À dose modérée, l'équivalent d'une à deux cuillères à café de gingembre frais par jour, il est généralement sans danger. En revanche, à très forte dose, plusieurs grammes par jour sous forme d'extrait concentré, il peut provoquer des brûlures d'estomac, des irritations digestives et interagir avec certains traitements, anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, médicaments contre le diabète, le gingembre peut faire baisser la glycémie, et certains antihypertenseurs. Les personnes sous traitement médical, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes souffrant de calculs biliaires doivent consulter un médecin avant d'entreprendre une cure de gingembre aphrodisiaque à haute dose. En cuisine, en infusion ou en cure modérée, le gingembre reste un allié santé précieux aux multiples vertus. En conclusion, la réputation du gingembre aphrodisiaque puise ses racines dans des traditions millénaires et une observation empirique qui a traversé les cultures. Si la science ne valide pas encore formellement ces allégations, elle ne les contredit pas non plus, et les mécanismes d'action potentiels sont bien réels. Utilisé avec modération dans le cadre d'une alimentation variée et d'un mode de vie sain, le gingembre peut être un allié agréable pour raviver la flamme du désir. Il ne fera pas de miracle à lui seul, mais il participera à créer les conditions physiques et psychologiques d'une rencontre amoureuse réussie. Alors pourquoi ne pas l'inviter dans votre prochain dîner aux chandelles? C'était « Le gingembre est-il vraiment aphrodisiaque? » un texte de Destination Santé et Futura Science, paru le 24 février 2026, dans Futura Science.
On veut des chefs inspirants. Une lettre ouverte d'Isabelle Morin, parue le 15 juin 2026 dans La Presse. Isabelle Morin est professeure de sociologie au Cégep. Elle souhaite que les chefs de parti à Québec s'inspirent d'une émission bien connue pour faire lever la pâte et offrir à la population une campagne électorale gastronomique et digeste. La saison de l'émission « Les chefs » tire à sa fin. Au moment où s'ouvre la période préélectorale pour le choix de notre prochain gouvernement à Québec, je propose à tous les aspirants premiers ministres de s'inspirer de cette émission qui fait chaque fois mon bonheur printanier. Cette émission, haute en saveur, est fraîchement inspirante. Je dirais même qu'elle nous enseigne des savoir-faire et des savoir-être qui vont bien au-delà des marmites et des calculs savants pour faire lever la pâte. Dans le rythme effréné du chronomètre, des consignes complexes qui mesurent les capacités créatives, organisationnelles, les techniques de base, comme les plus raffinées, pour offrir des plats qui surprennent et exaltent les palais des juges expérimentés, c'est essoufflant, même pour moi qui suis assise dans mon salon. Et dans tout le brouhaha des mouvements, presque chorégraphiques, il y a des humains, des personnes talentueuses, mais surtout bienveillantes. Elles s'encouragent, s'entraident, se désolent et pleurent lors des départs obligés, car oui, au terme de cette saison, comme de toutes les autres, il y aura un gagnant. Des perdants? Je n'en suis pas certaine. Ils apprennent, prennent la critique avec émotion et raison, reconnaissent leurs erreurs, expriment leur fierté d'être là, d'être parmi les meilleurs, que leur présence est un privilège qu'ils cherchent à honorer. Chers aspirants premiers ministres, inspirez-vous de ces jeunes en compétition qui aspirent, eux aussi, à être couronnés le chef ou la chef des chefs. Mais avec tant d'humanisme et de collaboration que l'engouement pour cette émission réside aussi dans ces bons sentiments qui font tellement de bien. Vous vous préparez à entrer en campagne électorale? Vous êtes à vos postes de travail pour offrir au peuple québécois vos programmes de parti. Inspirez-vous! Présentez-nous des idées qui visent le bien commun, des objectifs qui rassemblent. Priorisez l'essentiel pour éduquer, pour nourrir, pour loger, pour soigner la population, pour cultiver nos terres, pour aimer notre langue commune, pour accueillir, pour aider, pour habiter notre territoire, pour vivre ensemble. Suis-je au pays des licornes? Non. Travailler ensemble lorsque possible et créer des occasions. L'aide médicale à mourir, la loi Gaby-Renault, la solidarité durant la pandémie prouve, comme le font les chefs à la télévision, que la collaboration galvanise les forces et multiplie les talents. Les enflures verbales, les égos blessés, les attaques, l'utilisation d'expressions verbales stigmatisantes, l'incapacité à reconnaître réellement ses erreurs, les accusations rapides sont des distractions puériles et stériles. Il y a tant d'enjeux à comprendre et à traiter, tant de défis à relever. À vous de hausser le niveau de vos interventions et de vos ambitions. Nous avons besoin de projets de société qui ouvrent l'appétit, qui sentent bon, qui permettent d'espérer tout en donnant l'envie de partager. Nous sommes en manque d'un « nous rassembleur » qui ne peut exister seulement lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley quand nos Canadiens nous font rêver au meilleur. C'est beaucoup demandé, je sais, mais je vous invite à oser sortir des joutes politiques connues et à nous offrir de la politique gastronomique accessible et digeste. C'était « On veut des chefs inspirants », une lettre ouverte d'Isabelle Morin paru le 15 juin 2026 dans La Presse.
L'amitié Trump-Netanyahou mise à mal. Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair, publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada. Dans le centre de Jérusalem, un immense panneau publicitaire rend hommage au président américain, qualifiant Donald Trump de « deliverer », celui qui répond aux attentes. Ces dernières années, les signes d'affection à l'endroit du 47e président des États-Unis étaient bien visibles en Israël. Que ce soit pour sa décision de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem ou les premières frappes menées contre l'Iran en juin 2025, Donald Trump est vu comme un précieux allié par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien ne manque pas non plus de souligner la contribution de la première administration Trump, 2017-2021, à la normalisation des relations entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes. Selon un sondage du Jewish People Policy Institute, 73% des Israéliens décrivent Donald Trump comme étant un président au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la défense des intérêts israéliens. De plus, 49% d'entre eux le décrivent même comme étant le meilleur dirigeant américain de l'histoire. C'est d'ailleurs conjointement que les armées des États-Unis et d'Israël ont mené des frappes contre Téhéran le 28 février qui ont tué le guide suprême Ali Khamenei et déclenché un conflit qui a duré plus de 3 mois. Toutefois, depuis quelques semaines, cette bonne entente entre les dirigeants américains et israéliens semble s'être effritée. De l'impatience. Pressé de parvenir à un protocole d'entente avec l'Iran pour mettre fin au conflit et surtout permettre le retour à un trafic plus normal du pétrole dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump n'a pas caché son impatience à l'endroit de la campagne militaire menée par son allié israélien au Liban, qui menaçait de faire dérailler les pourparlers avec Téhéran. Cette impatience s'est traduite dans une conversation téléphonique entre les deux hommes, début juin, au cours de laquelle Donald Trump aurait déclaré « You are fucking crazy »,« Tu es complètement fou » à Benjamin Netanyahou, selon le média américain Axios. Dimanche, peu après l'annonce de la conclusion d'une entente avec Téhéran, le président affirmait au même média que le dirigeant israélien n'avait vraiment aucun jugement. He has no fucking judgment. Dans un autre article, cette fois dans le New York Times, le président décrivait le premier ministre israélien comme étant quelqu'un de très difficile. Pour être honnête, il devrait nous remercier, parce que si l'Iran avait l'arme nucléaire, Israël n'existerait plus après 2 heures, a-t-il ajouté. Le président s'est montré critique des frappes menées par les forces israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth dimanche, peu de temps avant l'annonce du protocole d'entente. En Israël, l'annonce de la conclusion d'un protocole d'entente entre les États-Unis et l'Iran a été accueillie par des critiques et du scepticisme, d'autant que, selon les belligérants, l'entente prévoit la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Après de longues heures de silence, Benjamin Netanyahou a finalement prononcé un discours à la nation dans lequel il a admis que Donald Trump et lui n'étaient pas toujours d'accord. « Nous resterons dans la zone de tampon sécuritaire du Liban aussi longtemps qu'il le faudra », a-t-il déclaré, faisant écho à ce qu'avait annoncé avant lui son ministre de la Défense. « Nous ne sommes pas liés par l'accord de Trump. Israël n'est pas subordonné aux États-Unis. » « Nous sommes un pays indépendant », a de son côté déclaré Itamar Ben-Gvir, le ministre d'extrême droite de la Sécurité intérieure, qui appartient à la coalition de M. Netanyahou. Deux campagnes, des intérêts divergents. Tant aux États-Unis qu'en Israël, les dirigeants se trouvent devant des échéances électorales imminentes. Le 3 novembre, les Américains seront appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, qui visent à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. Or, la guerre longtemps défendue par le président Trump et plusieurs de ses alliés républicains est impopulaire auprès de l'électorat, comme le démontre un sondage New York Times-Siena publié le 18 mai. Selon ce coup de sonde, 64% des Américains pensent que déclencher la guerre était une mauvaise décision, contre seulement 30% qui estiment que cette décision était la bonne. Le prix du carburant, passé à plus de 4 $ le gallon à l'échelle nationale, alors qu'il était à environ 3,15 $ un an auparavant, n'est pas étranger à ce désaveu de la guerre au Moyen-Orient. Tant de facteurs qui ont conduit Donald Trump à conclure une entente avec Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, par où transitait 20% de la production mondiale de pétrole avant le début du conflit. À ces impératifs politiques et économiques s'ajoute une opinion publique moins favorable qu'auparavant à l'alliance américano-israélienne. Selon Pew Research, 60% ont une impression défavorable d'Israël, alors qu'ils étaient 55% à avoir une opinion favorable en 2022. Si, chez l'ensemble de l'électorat républicain, l'appui à l'État hébreu demeure largement majoritaire, un fossé générationnel tend à se creuser. Ainsi, toujours selon Pew, 57% des républicains âgés de 18 à 49 ans ont une image défavorable d'Israël. Le représentant républicain Thomas Massey, battu dans une primaire le mois dernier, ne cachait pas son opposition à la guerre et à une proximité qu'il jugeait trop étroite entre son pays et le gouvernement israélien. Un scénario différent en Israël. En Israël, où des élections législatives doivent avoir lieu d'ici la fin octobre, le scénario est bien différent, puisque la population s'est montrée favorable à la guerre contre l'Iran. Toujours selon la firme Pew, à la fin du mois d'avril, 75% des Israéliens jugeaient que la décision d'entrer en guerre contre Téhéran était la bonne. Un autre sondage, mené entre la fin mai et le début juin pour la firme Israel Democracy Index, révélait que seuls 28% des Israéliens jugent qu'un accord affaiblirait le régime de Téhéran. Ce scepticisme dans l'opinion publique israélienne s'ajoute à des critiques que reçoit le gouvernement de la part d'élus et de citoyens de localités du nord du pays, régulièrement ciblés par des tirs de roquettes du Hezbollah, qui jugent que les autorités ne sont pas allées assez loin dans leur campagne militaire au Liban. En début de campagne électorale, ce mécontentement pourrait faire mal au parti du premier ministre, le Likoud, d'autant plus que le nord israélien est généralement une région riche en votes pour la formation de Benjamin Netanyahou. Pour le premier ministre, qui détient le record de longévité à la tête du gouvernement israélien, l'équilibre s'annonce difficile à trouver entre plaire à cette base qui réclame une approche plus musclée et ne pas déranger la Maison-Blanche qui veut à tout prix que son entente avec Téhéran tienne le coup. Parce que, malgré les tensions exposées au grand jour ces dernières semaines, Washington demeure le plus grand allié d'Israël, tant sur le plan politique que militaire. Dimanche, quelques heures avant l'annonce du protocole d'entente avec l'Iran, Benjamin Netanyahou n'a donc pas manqué de souligner l'anniversaire de Donald Trump, qui soufflait ce jour-là ses 80 bougies. Pour Donald Trump, il semble évident que personne, y compris son allié israélien, ne doit gâcher la fête. C'était « L'amitié Trump-Netanyahou mise à mal », un texte de Raphaël Bouvier-Auclair, publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada.